Bon, de quoi on parle ce soir alors ?
Eh bien, de témoignages. C'est une soirée entièrement consacrée aux témoignages, avec pas mal de phénomènes relatifs aux maisons hantées, de poltergeist, c'est-à-dire d'événements un peu bizarres qui se produisent dans les maisons. D'ailleurs, si c'est votre cas, n'hésitez pas. 0826 300 300, s'il y a des choses, des vases qui volent, qui traversent la cuisine tranquillement comme ça.
Moi, je déménage, moi, quand ça m'arrive.
Non, il faut surtout nous appeler parce que là, on arrive tout de suite, quoi, avec une lueur de gourmandise au fond des yeux. Dit, où ça?
Là, d'accord.
Oui, d'accord, nous intéresse beaucoup. Ouais.
Très bien. Donc, on va entendre tout ça alors.
0826 300 300 ce soir. Oui, témoignage jusqu'à minuit.
Ce n'est pas que des films américains, c'est aussi chez nous.
Ah, pas du tout. Non, les films américains se sont inspirés de faits vrais.
Voilà, exactement.
Nuance.
Allez, on écoute tout ça.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédi. Sur Sud Radio.
Cette émission est entièrement consacrée, vous l'avez entendu, à vos témoignages. Bonsoir et bienvenue sur Sud Radio dans les Aventuriers de l'étrange. Vous pouvez, vous le savez, intervenir à tout moment par le biais des SMS. Vous envoyez vos messages précédés du mot Sud au 71 200 et je serai votre porte-parole. Alors, à mes côtés, pour répondre à vos questions, comme chaque soir que cette émission est consacrée à vos témoignages, Pierre Massias du site psylande.org, où vous découvrirez toutes les nouvelles et archives de la recherche scientifique dans le domaine du paranormal. Pierre, bonsoir.
Bonsoir Louis.
Bienvenue dans ces nouveaux studios.
Oui.
C'est la première fois que vous venez dans ces nouveaux studios.
Tout à fait, oui.
Hein, c'est pas mal.
C'est très bien installé, ça a l'air très fonctionnel et sympa.
Complètement, oui, c'est très joli, on a le petit café, les frites, tout bien. Alors, à vos côtés, pas exactement dans le transistor, mais il est avec nous au bout du fil, Renaud Évrard du GEIMI, du groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International. Renaud, bonsoir.
Bonsoir.
Alors avec vous, mon cher Renaud, et avec Pierre, nous sommes à l'écoute de ceux et celles qui vont nous appeler jusqu'à minuit. 0826 300 300, si vous pensez avoir vécu un phénomène paranormal, si vous vous posez des questions, et c'est tout à fait légitime, nous sommes là pour, si ce n'est vous répondre, au moins vous apporter quelques éclaircissements. Et puis vous le savez, pour les SMS 71 200, vous envoyez vos textes précédés du mot Sud.
Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
0826 300 300, vous le savez, notre standard est à votre disposition pour que vous puissiez nous joindre si vous pensez avoir vécu un phénomène paranormal. Pierre Massias du site psylande.org et Renaud Évrard du groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International sont en ma compagnie. Nous accueillons pour commencer Monique qui nous appelle de Béziers. Bonsoir Monique.
Louis.
Merci de venir nous rejoindre à une heure aussi tardive. Alors, ma chère Monique, vous nous avez appelé, laissé un message sur notre boîte vocale, parce que vous avez vécu quelques phénomènes un petit peu étranges quand même. Hein?
Oui.
Alors, vous avez notamment, si je me souviens bien, puisqu'on en a discuté un petit peu avant, lors de la préparation de cette émission, entendu des bruits chez vous, je crois.
Oui, des bruits dans l'armoire. C'est de cela dont vous parlez ?
Voilà, exactement.
Oui, oui. Il y a eu ça, parce qu'il y a eu d'autres choses également.
Mm-hmm.
Des bruits dans l'armoire, presque toutes les nuits, ça frappait, ça me réveillait vers 3-4 heures du matin. Et
cette armoire se situe où dans votre maison ?
C'était dans ma chambre.
D'accord, l'armoire de votre chambre.
L'armoire de ma chambre.
Bien.
Oui.
Si ça n'est pas indiscret, qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire ? Du linge de maison, des choses comme ça ?
Oui, tout à fait. Oui.
Bon.
Enfin, du linge de maison et puis et des vêtements.
Oui. Donc rien de particulier. Quand est-ce que ça a commencé la première fois ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Dans quelles circonstances ?
La première fois, alors cette armoire, je l'ai achetée chez un brocanteur et bon, j'habitais dans un appartement dans une rue de Béziers. Et ensuite, j'ai déménagé et c'est là, dans mon deuxième logement, que ça a commencé.
Ouais.
Et, mais dans, c'était un immeuble vétuste où il se passait pas mal de choses. Il y avait des squatteurs, de la musique, il y avait des cambriolages, des gens qui se bagarraient, des blessés. Je crois même qu'il y a eu un assassinat à une certaine époque, d'après les voisins.
Oui, oui, oui.
Et j'ai déménagé. Alors, maintenant, j'habite dans la région de Saint-Gervais-sur-Mare.
Oui.
Et alors, il s'est passé une chose curieuse, parce que cette armoire, bon, alors, il ne se passait presque plus rien. Et bon, elle est toujours dans ma chambre. Mais bon, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup votre émission. C'est passionnant.
Oui, merci.
Mais simplement, le problème, c'est que je suis impatiente de vous entendre, parce que il y a le sport que j'aime pas trop. En attendant, je m'étais allongée sur mon lit et je me suis endormie. Et juste au moment où vous commenciez l'émission, il y a de violents coups dans l'armoire, ce qui m'a permis de vous entendre.
C'est pas vrai.
Avec bonheur, oui.
Ah, c'est extraordinaire. Donc, ces coups dans... Enfin, là, en l'occurrence, les coups dans l'armoire vous ont réveillé juste au moment où l'émission commençait.
Oui.
En fait, presque pour vous dire, Monique, debout, c'est l'heure. L'émission commence.
Oui, exactement. Oui, oui, oui. Alors, c'était plutôt bénéfique.
Ah, écoutez, je suis flatté même. C'est même plutôt sympa. C'est très étonnant. Mais comment est-ce que vous le vivez, vous, ces coups dans... Est-ce qu'ils sont violents, d'abord? Est-ce que ça ressemble à des coups de poing dans la porte? Est-ce que c'est des coups plutôt sourds? Est-ce que vous avez une... Vous pouvez nous les décrire?
Non, non, c'était des... enfin, quand j'habitais à Béziers, c'était des petits coups, comme quand on frappe à une porte, vous voyez, comme ça, doucement,
ouais.
Comme pour me réveiller, comme pour m'ennuyer. Moi, je les vivais comme un ennui.
Ouais.
Comme pour se moquer de moi, pour me dire, ben, tu ne dormiras pas.
Et
là, récemment, ça, c'était très fort, c'était violent, étant donné que je dormais, mais enfin, j'ai le sommeil léger, je pense que même de petits coups m'auraient réveillé.
Oui, oui, oui.
Mais comment je le vis
Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça... Vous en avez pris l'habitude? Comment?
Oui, j'en ai pris l'habitude. Toute ma vie, j'étais témoin de phénomènes bizarres. Enfin, j'ai un écho terrible, là.
Ah, d'accord. C'est pour ça que ça vous embête pour parler, c'est ça?
Un tout petit peu.
Oui, on va voir ce qu'on peut faire. En attendant, je me retourne vers Renaud Évrard. Mon cher Renaud, quelle est votre première analyse, votre premier sentiment quant à ces coups comme ça dans l'armoire? Surtout, ce qui m'amuse personnellement, c'est ces coups dans l'armoire qui ont réveillé Monique juste avant le début de l'émission. Je trouve ça très...
Oui, ça je trouve que bien que ça marche chez chaque auditeur potentiel de Sud Radio. Hein. le poltergeist de Sud Radio qui vient vous chercher, ne ratez pas l'émission.
Ouais, 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 c'est sympa quand même.
Mais en même temps, oui, c'est assez étrange et je veux bien savoir comment Monique le comprend, parce que ça a l'air d'être lié justement à peut-être son désir de ne pas rater l'émission. Pour une fois, c'était bénéfique, alors que elle dit que plutôt, généralement, c'est quelque chose d'assez embêtant.
Oui.
Donc là, comment elle le comprend? Est-ce que c'est vraiment nouveau ou est-ce que c'est parfois bénéfique, parfois négatif?
Ouais. On va voir ça avec elle, parce qu'on est en train d'essayer de résoudre ce petit problème d'écho qu'elle avait dans le téléphone, ce qui est assez embêtant pour parler. Pierre Macias, votre première analyse comme ça sur ces coups dans l'armoire qui réveillent Monique juste avant le début de l'émission?
Alors on va dire que c'est amusant, mais... C'est bienvenu, oui.
Oui, oui, oui.
Non, mais on a, je pense, relativement peu d'éléments maintenant pour avoir réellement un avis.
Ouais,
des coups dans l'armoire. Toute personne qui a des meubles en bois chez lui sait que par des différences de température, ça va claquer à certains moments.
Oui, ça craque. mais une série de coups. Monique, on vous a retrouvé. Est-ce que les coups dans l'armoire, c'était plutôt des craquements ou vraiment des coups comme quand on frappe à une porte?
Ah non, non, c'était pas des craquements, c'était comme quand on frappe à une porte.
Ah voilà, oui.
Ah oui, vraiment.
Oui.
Vraiment. Et je demandais, je disais, mais arrêtez, je vous en prie, cessez. Et les coups semblaient répondre à ma demande.
C'est-à-dire qu'ils cessaient?
Et ils recommençaient. Comme pour s'amuser. J'ai eu l'impression d'un amusement.
Mm. Et est-ce que vous avez eu la tentation, l'idée ou l'envie de dialoguer avec ces coups? C'est-à-dire, dire, ben voilà, est-ce que tu es quelqu'un? Un coup pour oui, un coup pour non.
Non.
Vous n'avez pas osé le faire ou n'y avez pas pensé?
J'y ai pas pensé et j'étais un petit peu terrorisée au fond de mon lit tout de même.
Mm-hmm.
Enfin, terroriser, le mot était un peu grand, mais...
Mais effrayé, en tout cas.
Oui.
Ouais. Renaud Évrard, une question pour Monique?
On retrouve finalement un phénomène très très basique, mais vous avez dit d'abord que c'était qu'une des choses, c'était peut-être pas ça dont vous avez envie de parler. Il y a d'autres phénomènes autour de ça?
Pas autour de ça, mais au cours de ma vie et durant mon enfance, oui. Malgré l'écho, là, je veux bien vous parler de ça, cet écho, c'est...
Oui.
Oui, j'ai entendu une voix qui m'a poursuivie toute ma vie. Ça a commencé vers l'âge de 4 ans. Je vivais avec ma mère handicapée et mon frère à la campagne. Nous habitions une maison neuve. Je dis neuve parce que... dans les maisons anciennes, il se passe toujours quelquefois. On pense toujours à des morts ou je ne sais qui. Mais là, c'était une maison neuve.
Ouais.
Et dans cette maison neuve, il y avait une pièce qui m'effrayait. Je n'osais pas passer devant. Et là, c'était une pièce où on entreposait des fauteuils. Enfin, nous n'utilisions pas.
Une sorte de débarras.
Pardon?
Une sorte de débarras, de réduit, quoi.
Voilà, oui, c'est ça.
Ouais.
Et quand ma mère handicapée me demandait d'aller chercher un objet, et moi je disais, oh non, surtout pas, il y a des esprits. Et je ne connaissais pas du tout le mot esprit, ma mère ne parlait pas de ça, nous n'avions ni radio ni télévision à l'époque.
Mmh.
Et alors, je ne pensais qu'aux esprits, et je sentais... Enfin, pas avec mon nez, mais au sens feeling, à celle, la couleur rouge. Je sentais du rouge dans cette pièce, et toujours ces esprits, et il n'y avait pas encore de voix, mais quelques temps après, il y a eu des voix, une voix qui m'appelait. C'était une sorte de murmure rauque que j'entendais.
Vous aviez quel âge à ce moment-là?
4-5 ans.
D'accord, donc très jeune. Et
oui.
Cette voix vous a poursuivi longtemps? Vous l'avez entendue pendant longtemps?
Oui, jusqu'à l'âge de 18 ans.
Ah, quand même?
Oui.
Ouais. Et c'était... périodique, je veux dire, est-ce qu'il ne se passait pas une journée sans que vous ne l'entendiez, ou une semaine, ou un mois? C'était de quel ordre?
Non, c'était périodique. Il y avait des accalmies de 6 mois, 1 an même,
ouais,
et après, et des périodes, surtout au moment de la puberté, il y avait une période d'accalmie, et vers 12, 13, 15, 16 ans, là, ça a été terrible. Presque tous les jours, c'était soit un murmure, soit vraiment des hurlements à mon oreille.
Ouais. Vous en avez parlé?
J'étais la seule à l'entendre, et, mmh. et après, ma mère qui me disait, elle allait avec sa chaise roulante dans la pièce avec une lampe électrique, et elle me disait, mais il n'y a rien, enfin, il n'y a personne qui était folle. Et finalement, un beau jour, elle l'a entendu, elle et d'autres gens et des amis qui sont venus à la maison à qui elle n'en avait jamais parlé. Elle me défendait d'en parler.
Oui.
Elle me disait, on va nous prendre pour des fous. Et ces gens-là l'ont entendu, enfin d'autres gens. Et même, j'avais une petite nièce qui était venue passer quelques jours à la maison, qui dormait dans ma chambre. Mmh. Et elle m'a réveillée la nuit. Elle me dit, mamie t'appelle. Mamie qui était... enfin, sa grand-mère et ma mère.
Oui, oui, oui.
Et je suis descendue, j'ai dit à ma mère, mais tu m'as appelée. Elle me dit, mais pas du tout. Et ma nièce, la petite fille, qui n'en avait jamais parlé, bien évidemment, elle l'avait entendue.
Et là, vous habitiez toujours dans la même maison, hein, dans cette même maison.
Dans la même maison.
Ouais.
Et alors, après, on a déménagé quand je devais avoir 12 ou 13 ans, mais la voix m'a suivie.
Ouais.
Ailleurs, c'était pareil.
Et une fois, cette voix, m'avez-vous dit, vous a rendu service, un fier service d'ailleurs.
Elle m'a rendu service, en effet, parce que outre les moments où elle me faisait sursauter à tout bout de chambre.
J'imagine.
Un jour, j'allais acheter je devais acheter du pain à la boulangerie qui était en face, mais il était presque... La boulangerie fermait à 13h, et il était 13h moins 1, moins 2, et je courais comme une dératée pour ne pas manquer le pain. Et d'un seul coup, cette voix m'a hurlé dans l'oreille, mais vraiment, et j'ai fait un bond en arrière d'un mètre, et ça a été d'autant plus percutant qu'il y avait une période d'accalmie que j'y pensais plus. Là, je pensais vraiment que quelqu'un m'appelait, mais bon. Et au moment où je me suis retournée, où j'ai fait ce bond en arrière, une voiture est passée à toute vitesse, et si je n'avais pas fait le bond en arrière, je pense qu'elle m'aurait heurté.
Ouais.
J'aurais été violemment blessée ou tuée, peut-être.
Mmh. Est-ce qu'on peut dire que cette voix-là, à ce moment précis, vous a sauvé la vie?
Alors, moi, je crois, oui, je crois. Et elle ne s'est plus jamais remanifestée par la suite.
Après cet événement-là, elle ne s'est plus jamais manifestée?
Non.
Ouais.
C'était terminé.
Mmh.
Oui.
Soulagée que ce soit terminé?
Je n'en pouvais plus.
Oui.
Je lui demandais qui que vous soyez, quelles que soient vos intentions, cessez. Mais enfin, elle ne cessait pas à l'époque.
Ouais.
Bon, après cet événement, elle ne s'est plus manifestée.
Ouais. Ouais, ouais. Renaud Évrard, est-ce que vous avez une question pour Monique concernant cet autre phénomène?
Ben là, ça devient beaucoup plus large, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus singulier. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont eu comme ça une voix depuis leurs 4 ans qui les a suivies, ou alors des phénomènes qui sont finalement un peu toujours les mêmes. C'est un peu toujours l'idée d'avoir une sorte de compagnon imaginaire.
Oui.
Bon, mauvais, quelle est sa nature? Est-ce un ange gardien? Est-ce un esprit? Est-ce une production psychokinétique? Quelque chose qui se relierait justement à la parapsychologie, comme pour, ben, par exemple là, dans le cas où elle prévient un accident, ça lui permet de faire un bond en arrière. J'ai vu plusieurs cas comme ça où finalement il y a différentes mises en scène. Ça peut être un ami qui vous apparaît en apparition, une voix ou alors vraiment des images, une sorte de flash. Le but finalement, là, est toujours le même, c'est de sauver la vie, et on voit là l'utilité. Je ne sais pas trop après comment expliquer toute la suite des événements depuis qu'elle a 4 ans avec cette pièce qui était effrayante.
Ouais.
Ça peut être simplement une phobie infantile sans forcément de grandes raisons, mais c'est là où ça a commencé à se mettre en place. Et, enfin, j'avais une question par rapport... au moment où la mère et les témoins ont assisté, ont entendu également
la voix. Ouais.
Est-ce que Monique était présente à côté ou
oui et non, enfin, cela dépendait. La voix se manifestait même lorsque je n'étais pas là.
Ah, votre mère, elle vous l'a entendu plusieurs fois.
À ma mère et à d'autres personnes qui n'étaient pas au courant, puisque ma mère ne tenait pas du tout à ce que cela se sache.
Oui. Et c'était toujours le même mot qui était prononcé, à savoir Monique, c'est ça?
Oui, oui.
À chaque fois, enfin, ça n'a pas varié de c'était toujours Monique depuis vos 4 ans jusqu'à 18 ans.
Oui, c'était toujours Monique, sauf une fois, ma mère m'a dit, a cru entendre André, qui était le nom de mon frère.
Ouais.
Une seule fois.
Mmh, ouais. Pierre Mathias, qu'en pensez-vous?
Il y a plein de choses dans ce témoignage de Monique. Je pourrais revenir sur les bruits d'abord de l'armoire.
Dans l'armoire, bien sûr, oui.
Parce qu'en fait, Louis, vous avez fait une très bonne remarque. Mm-hmm. Ce serait intéressant peut-être d'essayer de, puisqu'on a tendance à associer ce type de bruit à des manifestations de l'au-delà, c'est la première idée qui va venir dans la tête des gens. Ben, pourquoi pas de reproduire ce qu'ont fait les sœurs Fox à l'origine du spiritisme, qui a donné naissance proprement dit au spiritisme, c'est-à-dire d'essayer de communiquer avec ses coups.
Ben oui.
Un coup pour oui, un coup pour non, et puis on essaye d'établir un dialogue. Ça s'est refait dans les années 70, si j'ai bonne mémoire, ou 60 ou 70 plutôt, dans un village qui s'appelait La Machine.
Ah oui, 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 bien
c'est
sûr.
Un cas célèbre. Mm-hmm. Ouais. Pourquoi pas essayer. Et ça, pour tout auditeur qui aurait ce genre de bruit à la maison.
Essayer de communiquer, d'établir un dialogue avec ce bruit.
Ouais. Alors, par des questions très simples, d'abord, on essaie d'établir d'étalonner le phénomène, je vais dire, il y a combien de verres sur la table ou il y a combien de fleurs dans le pot.
Ouais, ouais.
Et puis après, on essaye d'avoir des éléments qui sont censés être inconnus par l'esprit potentiel, on va dire.
Oui, le bruit en question, quoi.
Voilà.
Ma chère Monique, est-ce que ces bruits continuent de se manifester ou est-ce que tout cela a cessé?
Non, pour l'instant, ça a cessé.
Ouais.
Ouais. Oh, oui.
Si jamais il se manifeste à nouveau, tentez peut-être d'établir, comme l'a dit Pierre, une sorte de dialogue pour voir ce que ça donne.
Oh oui, oui, oui. Hein? Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, oui, oui.
Écoutez, on peut pas, vous étiez quand même relativement effrayé, donc on peut pas non plus penser à ça lorsqu'on est sous l'emprise de la peur. C'est ce qui est tout à fait compréhensible quand même. Ouais.
Oh, oui, oui, oui. Et il s'est produit également une chose, je veux peut-être pas te tenir l'antenne trop longtemps, mais je vais vous expliquer très, très succinctement. Je travaillais dans un endroit qui me plaisait absolument pas et j'ai donné ma démission après. J'ai dit à l'employeur que je n'irai pas au-delà de ma période d'essai.
Oui.
Et l'employeur était très content de moi, ne souhaitait pas que je parte, mais alors je suis partie quand même. Je devais avoir un autre travail que je n'ai pas eu au bout du compte. Alors j'étais bien embêtée et j'ai revu cet employeur et comme j'étais partie en très bons termes, je lui ai demandé de me réembaucher, ce qu'il a fait. Et finalement, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, mais pourquoi est-ce que j'ai demandé, ça me convient vraiment pas. Je ne savais pas quoi inventer et il fallait que j'invente quelque chose de fort pour...
Pour partir définitivement cette fois-ci.
Oui. Je me suis dit, mais vraiment, mais je vais passer pourquoi. Enfin bon. Et j'ai dit à cet employeur, j'ai inventé une histoire. J'ai dit, ma nièce vient d'avoir un accident de voiture. Et elle me demande de garder son enfant quelque temps. Il faut absolument que je parte. Bon, il n'en a pas cru un mot, mais il m'a dit, bon, ben, tu vois, vous voulez partir.
Oui.
Je suis partie. Et quelques jours après, ma nièce a eu un accident de voiture et elle est morte.
Ah, ça, c'est moins drôle. Ouais.
Ça, c'est moins drôle. Mais est-ce que j'ai senti, ça je me suis toujours posé la question, est-ce que c'était une coïncidence ou...
Est-ce que vous n'êtes pas en train de me dire par hasard si, est-ce que le fait de dire ça, c'est pas moi qui ai provoqué l'accident?
Oui, j'y ai pensé aussi un petit peu.
Le fond de votre question, ce serait plutôt ça?
Oui, oui, oui.
Je pense que Renaud Évrard, là, peut répondre et Pierre Massias pourra répondre à cette question. Renaud.
Oui, c'est toujours la question des prémonitions. Est-ce qu'elles ont une action sur le réel? En fait, non, on n'a jamais trouvé de prémonition où on réalise l'événement, surtout quand c'est des événements comme ça qui vous échappent complètement. Quand ça vous concerne, vous, personnellement, il y a encore des doutes possibles, mais là, il n'y a aucune... On ne pourrait rien faire, là. Cette possibilité n'est pas là, quoi.
Donc là, c'est bien clair.
Vous avez trouvé une excuse, bon, elle était valable, c'est peut-être... oui, là, je serais plus pour une sorte de coïncidence.
Bon, qu'une prémonition.
Plus qu'une prémonition, oui.
D'accord. Ouais. Mmh. Pierre, qu'en pensez-vous?
C'est difficile d'avoir un avis tranché là-dessus. Renaud penche pour l'hypothèse que ce n'est pas une prémonition. Mmh. On pourrait très bien imaginer que ce en soit une, mais on n'a pas de preuves, d'arguments formels pour affirmer que ça en soit une.
Ouais.
Ça peut être vraiment du hasard.
Ouais. Alors, en revanche, en ce qui concerne les voix, parce qu'on...
Je peux revenir aussi sur une précision sur les prémonitions, ce qu'on appelle les auto-prémonitions. Alors, c'est sur cet aspect, la question qu'on se pose quand un phénomène nous arrive, je vais dire. La première question, c'est pourquoi moi, ou c'est toujours se remettre en cause pourquoi moi, est-ce que c'est pas moi qui l'ai provoqué dans ce cadre-là. Dans le cadre des prémonitions, l'un des premiers critères qu'on va appliquer à un témoignage de prémonition, c'est d'éliminer ce qui pourrait être considéré comme des auto-prémonitions. C'est-à-dire, on prévoit quelque chose dans le futur, mais qui nous concerne.
Oui.
De là, on peut très bien imaginer que notre parcours de vie normal nous laisse présager un certain événement. Et dans ces conditions, la prémonition, c'est plus une prémonition.
D'accord.
Une intuition, au mieux une intuition.
Une déduction subtile, fine, bien vue, quoi.
Éventuellement, on peut forcer le destin pour s'autosatisfaire.
Voilà, tout à fait, d'accord.
Dans ce cas-là, l'événement est complètement indépendant de la personne. C'est l'un des premiers critères qui sera retenu.
Mmh. Alors, en ce qui concerne les voix, Monique, que vous avez entendues, cette voix plutôt que vous avez entendue, je voudrais revenir, parce que Renaud est revenu dessus, mais on est passé rapidement à ce dernier cas que vous nous avez gentiment rapporté. C'est... les personnes extérieures à votre famille, c'est-à-dire cette nièce, c'est-à-dire d'autres personnes qui sont venues rendre visite, ils ont formellement entendu la même voix que vous et ils ont compris ce qu'elle disait, Monique, quoi.
Ah oui, tout à fait. Ah oui. Puisque ce phénomène se produisait même en mon absence.
Oui, c'est bien ça.
Ouais. Justement, moi, je répète une autre hypothèse alternative, mais bon, on fait ce qu'on veut, mais c'est que dans des pièces comme ça, il y a parfois des courants d'air. Alors, je connais pas du tout les lieux que vous pouvez largement mentir, mais certaines fois, il peut y avoir des courants d'air, soit dû à des tuyaux, soit des choses comme ça, et des frottements ou des choses comme ça qui produisent un son qui va être justement régulier et à partir duquel on peut très vite se mettre à entendre toujours la même chose, quoi.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit, mais j'avais précisé que c'était une maison neuve pour vous dire qu'il n'y avait pas de courant d'air, que les fenêtres étaient bien jointes et pas du tout de courant d'air. Justement, on y a pensé à ça.
D'accord, très bien.
Mmh. Ouais. Comme une espèce de vent qui s'engouffrerait soit dans une tuyauterie, soit dans quelque chose et qui produirait ce son, quoi. Ouais.
Oui, on a pensé à ça. Moi, même après, étant adulte, j'y ai pensé. Mais étant donné que le phénomène se produisait même dans la rue, n'importe où, même dans la
maison... Oui, mais ça, c'est plus forcément le même phénomène. C'est-à-dire que ce que vous entendez dans votre tête, c'est peut-être quelque chose qui est vraiment à vous. Alors que là, quand il a été objectivé avec d'autres personnes... Bon, votre nièce qui entend une voix la nuit, ça c'est encore autre chose. C'est très particulier, mais... les gens qui entendent Monique dans cette pièce en particulier, ça c'est... Enfin, j'ai l'impression que c'est plusieurs phénomènes assez différents et il y aurait peut-être pas... pas à les mélanger toujours ensemble. Mais je comprends que c'est une façon de dire que ce que vous entendez dans votre tête, c'est pas des hallucinations, par exemple. C'est vraiment quelque chose de réel. Ça a vraiment une consistance, c'est lié à votre histoire. Ça, je peux comprendre que c'est une théorie que, qui se défend, quoi.
Ouais.
Moi, j'ai tout imaginé, même des hallucinations, je dois bien l'admettre, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est un fait que j'entendais quelque chose. Et je ne sais pas ce que c'est.
Pierre.
Oui, Renaud, mais a raison de mettre ce point, le doigt sur une caractéristique d'analyse. On a tendance à ramener tout un ensemble de phénomènes à une seule explication, alors que on peut très bien avoir différentes explications et pris bout à bout, on va trouver un schéma général complètement différent de celui qu'on avait en tête au premier abord. Quand Monique nous a raconté l'épisode avec sa nièce, justement qui entend la voix, ça m'a fait penser surtout pour un enfant à une illusion auditive, et ça peut nous arriver à tous. Je pense qu'il y a énormément de gens à qui c'est arrivé, c'est tout à fait normal. Alors je ne saurais pas, peut-être que Renaud saura le faire, moi je ne saurais pas l'expliquer au niveau de la psychologie, mais c'est un phénomène qui peut nous arriver à tout un chacun, de manière plus ou moins fréquente. Ça peut être une fois dans sa vie, ça peut être... on pourra peut-être en donner une période de l'ordre de 2-3 fois par an. Donc là, on est dans une explication tout à fait, je vais dire, psychologique, rationnelle, qui ne fait pas appel à quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y a aussi ces bruits, ce souffle, Renaud évoquait les courants d'air. C'est un courant d'air qui va faire générer du bruit.
Qui fait un son.
J'ai toujours trouvé très difficile d'identifier réellement un bruit qui survient comme ça. C'est vraiment pas évident. Et c'est pas toujours évident. Et quand on rentre aussi dans un schéma explicatif, on va avoir tendance à appliquer toujours le même schéma explicatif. Et on peut comme ça se tromper sur la nature d'un phénomène pendant extrêmement longtemps. Alors, je ne dis pas, bien sûr, que c'est ce qui est arrivé réellement à Monique, mais c'est l'une des explications qu'on devra prendre en compte et qui rend difficile un avis tranché sur un témoignage comme ça qu'on obtient plusieurs années après.
Ma chère Monique, est-ce que cette maison dans laquelle vous avez vécu ce phénomène de voix, est-ce que cette maison est toujours dans la famille ou
Non, elle a été vendue.
Oui, d'accord.
Oui.
Très bien. Donc vous n'y êtes plus retourné, j'imagine, depuis des années.
Depuis des années. En plus, j'ai eu une enfance assez mouvementée. Enfin, c'était très 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 difficile. Donc je n'ai pas le désir d'y retourner. De revivre, de revoir des scènes.
Oui, qui vous rappellent. Oui, oui. D'accord. Oui. Ok. Je comprends très très bien. Pierre Mathias.
Oui, peut-être une dernière chose en guise de conclusion peut-être.
Allez-y.
C'est que actuellement donc vous avez de temps à autre des bruits dans l'armoire. Essayez en restant calme bien sûr d'établir ce fameux contact dont on parlait tout à l'heure. On verra ce qui pourra en sortir.
Ben oui, je le ferai.
Hein, et si ça se reproduit, voilà, tentez cela et puis rappelez-nous s'il y a quelque chose.
Oui, je
compte sur vous, ma chère Monique.
Et merci beaucoup pour vos explications, pour tout.
C'est avec plaisir. Merci beaucoup, ma chère Monique. 71-200, c'est le numéro pour envoyer vos SMS avec votre portable. Vous tapez Sud, votre texte, et vous envoyez le tout au 71-200 pour Sud Radio. Et puis, vous pouvez également nous appeler au 0826-300-300 si vous pensez avoir vécu un phénomène paranormal. Renaud Évrard du GEIMI et puis Pierre Mathias du site psylande.org sont en ma compagnie pour vous écouter et essayer de vous apporter au moins des éléments de réponse. Dans quelques instants, un autre témoignage.
Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
0826 300 300, notre numéro de standard. Vous pouvez nous appeler jusqu'à minuit si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal ou pour poser une question sur un phénomène paranormal auquel vous vous intéressez, si vous voulez avoir quelques éclaircissements ou tout simplement confronter votre point de vue avec Pierre Massias du site psylande.org et Renaud Evrard du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International. Un nouvel appel à notre standard, il s'agit de David. Bonsoir David.
Bonsoir Monsieur Benedi, vous m'entendez bien ?
Oui, très bien, vous aussi ?
Oui, très bien. Alors Magique. Vous risquez de temps en temps d'entendre ma petite fille qui a 2 ans derrière.
D'accord, c'est pas bien grave.
D'accord.
Alors, pas de souci. Mon cher David, vous nous avez appelé parce que, comme Monique, vous avez vécu, lorsque vous étiez jeune, un phénomène qui vous a suivi pendant quelques temps. Et ensuite, bien plus tard, il s'est passé autre chose. On va commencer par votre jeunesse. De quoi s'agissait-il ?
Donc voilà, j'avais 7 ans. J'habitais dans le 91 à hier exactement. On vivait dans un immeuble. Et donc, je me plaignais souvent. Vous m'entendez, Monsieur Benedi ?
Très bien, très bien.
Je me plaignais souvent à ma mère, en fait, et à mon père, que je voyais une femme blanche à droite de mon lit, qui s'approchait vers moi. Ouais. Et en fait, quand elle s'approchait, elle me tendait la main, elle s'approchait vers moi, et quand elle arrivait à mon niveau, je pleurais, et j'appelais ma mère, donc elle venait, ma mère, et elle me consolait.
Ouais.
Et donc ça s'est passé pendant un bout de temps. Et ensuite, mes parents se sont séparés.
Mmh.
Et ma mère est restée dans cet appartement avec moi et ma sœur.
Ouais.
Ma sœur avait sa chambre à côté de la mienne et ma mère avait la chambre au bout de l'appartement.
D'accord.
Et donc, ma mère entendait des bruits, se plaignait d'entendre des bruits dans ma chambre, le lit qui grinçait, des choses bizarres, alors que j'étais pas dans la chambre. Et plus ça allait, plus elle entendait des bruits et plus elle avait peur. Et donc, elle nous faisait dormir tous ensemble dans sa chambre à elle. Ma sœur entendait des bruits aussi, elle voyait des choses bizarres.
Ouais.
Donc on a tous dormi dans sa chambre plus tard. Et on a été obligés de partir parce que elle avait peur, quoi, et on avait peur, nous aussi.
Ouais. Alors ça a duré combien de temps, là, cette période comme ça, vous avez eu pas mal de choses qui se sont produites chez vous?
Ça a dû durer à peu près un an.
Ah, quand même?
Ouais. Et les apparitions ont commencé quand ma mère et mon père commençaient à se dégrader, quoi.
Ouais. Ouais. Alors, les apparitions de cette dame blanche, hein, c'est ça ? Ouais.
Dans mon souvenir, moi, je vois qu'une silhouette.
Ouais.
Je vois une femme blanche, mais je peux pas vous décrire le visage, je peux pas vous décrire si elle est jeune ou elle est vieille.
Mm-hmm.
Moi, j'ai qu'un vague souvenir, quoi.
Ouais.
Et donc, d'ailleurs, pendant quelques temps, j'y pensais même plus à cette histoire-là, et il y a que quelques années plus tard.
Ouais.
Où je m'en suis souvenu et j'en ai parlé à mon père et à ma mère.
Mm-hmm.
En disant peut-être que c'était dans l'esprit d'un garçon de 7 ans, quoi, qui se faisait des films. Elle m'avait raconté toutes ces histoires en disant qu'elle aussi, elle voyait des choses. Elle m'entendait me plaindre souvent dans ma chambre, quoi.
Mm-hmm. Et quand votre mère vous a dit qu'elle entendait ou qu'elle voyait des choses, elle vous a précisé quoi en ce qui concerne ce qu'elle aurait pu voir ?
Ma mère ne voyait rien.
Ouais.
Elle entendait des choses. Elle entendait des bruits grincer, c'est-à-dire mon lit grincer.
Ouais.
Elle arrivait dans la chambre, c'était en pleine journée. Hein.
Ouais.
Elle faisait le repassage, un exemple, elle faisait le repassage, elle entendait mon lit grincer. Elle arrivait, elle pensait que c'était mon chien qui était sur mon lit, donc elle allait l'engueuler pour le virer.
Ouais.
Donc elle se rendait compte que le chien était en bas et que je le sortais avec ma petite sœur. Et elle se rendait compte qu'il n'y avait personne dans la chambre. Et plus ça allait, plus il y avait des bruits.
Ouais.
Et moi, plus ça allait, plus je voulais plus dormir dans ma chambre parce qu'il y avait cette dame blanche qui arrivait.
Bah oui, j'imagine bien. C'est pas vraiment sympathique.
Alors je pourrais pas vous dire si ça me voulait du mal ou du bien. Moi dans mon esprit, ça me voulait du bien, mais dans un esprit d'enfant, j'avais peur, quoi.
Ouais. Mmh.
Et donc voilà. Et ma sœur, elle aussi voyait des choses.
Elle voyait ?
Non, elle voyait. Je pense que je lui transmettais ma peur, en fait.
Ah oui, ça c'est probable aussi.
Ouais.
C'est très probable parce qu'à force pendant un an de vivre dans ce climat de tension et de peur, et puis en plus cette année dont vous nous parlez, ça a été une année qui a été chargée en émotions fortes puisque visiblement le couple de vos parents s'est dégradé et ça a fini par une séparation. Tout ça c'est la même année, c'est ça ?
Moi, je commençais à avoir des apparitions. Et donc, mon père était témoin. de mes crises d'angoisse, quoi.
Oui.
Je venais les réveiller en pleine nuit.
Mm-hmm.
Il a jamais été témoin de bruit. En fait, ma mère, par la suite, entendait des bruits.
Ouais. Ouais.
Elle dans la maison, et ça s'est accentué, et on a été obligé de partir.
Ouais. Ouais. Une petite pause, là, si vous le permettez, David, je me retourne vers Renaud Évrard.
D'accord.
Renaud, que pensez-vous de ce témoignage, de cette histoire que David a la gentillesse de nous rapporter? Et puis surtout, voyez, même, il a mis en parallèle vraiment l'histoire affective avec ses parents, les soucis et le début des apparitions.
Oui, ben, c'est très bien, ça fait déjà une petite idée d'un raccord en tout cas de l'histoire paranormale avec l'histoire de vie, et c'est vrai que c'est la logique que j'essaie de suivre en tant que psychologue, mais
oui.
On n'est pas obligé de faire du forcing à chaque fois. Là c'est vrai qu'il y a ça, en même temps je ne saurais pas dire qui est le plus dérangé dans l'histoire, en fait.
Oui.
Vu que tout le monde vit un peu la chose à sa façon, que c'est un que ça se transmet dans la famille, que ça permet aussi, il y a des bénéfices hein, derrière, où la mère dort avec ses enfants, finalement il y a un regroupement, un
resserrement de liens affectifs.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Et dans les périodes difficiles, voilà, ça peut être utile comme ça, que ce soit valable ou pas, que ce soit réel ou pas, c'est des choses comme ça qui peuvent amener des bénéfices. Et on est quand même dans un immeuble avec plein de possibilités, du coup, de bruits qui viennent de partout. Je sais pas, il faudrait encore voir une fois la configuration des lieux. Vous y avez sûrement déjà pensé.
Ouais. Mais là, on parle de bruit, c'est-à-dire de grincement de sommier, mais bon, pas relatif à une, comment dirais-je, à une architecture particulière. Et puis, de toute façon, les apparitions, ça n'a rien à voir avec le bruit, Renaud. L'apparition de cette dame blanche.
Oui, mais la problématique des apparitions au pied du lit, c'est quelque chose qui est très très fréquent. Enfin, j'ai l'impression que c'est assez fréquent.
Chez les enfants.
Pardon.
Chez les enfants ou
Chez les enfants, oui, c'est déjà une chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui voient des enfants morts, enfin des gens morts.
Ouais.
Mais en général, la nuit, on a des perceptions qui sont déformables, en tout cas, où il y a possibilité d'hallucination, ça dépend aussi de la luminosité.
Et puis d'être après, plus facilement être impressionné.
Après aussi, ça peut être une... Enfin, comme nous le raconte David, il a un souvenir très flou d'une silhouette blanche, il a cette impression de peur qui devait être continue pendant longtemps, mais il ne sait pas trop à quel moment il a vu, à quel moment il a eu peur, sans rien voir, mais juste en anticipant. Et avec toutes ces transformations qu'a pu avoir ce souvenir au fil des années.
Ouais.
Donc on ne peut pas non plus dire là qu'il y a eu apparition pendant un an d'une femme complète. Hein, c'est une silhouette blanche, alors il peut y avoir plein de conditions pour qu'il puisse faire apparaître ça.
Ouais. Pierre.
Oui, je crois que, en fait, sur ce témoignage, je vais laisser, je vais abonder dans le sens de Renaud, c'est totalement sa partie.
Ouais.
On va traiter ça. Je vois pas d'éléments, je vois pas d'accroche, de point d'appui pour traiter ça d'une manière, plus physique.
D'accord. Alors, vous êtes sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange et David est en notre compagnie pour nous rapporter, mon cher David, un autre phénomène que vous avez vécu. Alors cette fois-ci, de manière beaucoup plus récente, hein.
Oui, juste un dernier mot.
Allez-y, je vous en prie, bien sûr.
Donc ça serait dû à mon imagination, cette dame blanche, en fait.
Vraisemblablement, oui.
Oui.
Dû surtout, enfin, à un mélange de les problèmes qu'il y avait à la maison à ce moment-là, ça a créé un climat de tension et ça a fait boule de neige, si vous voulez. Vous avez commencé à avoir peur, ce qui est tout naturel pour un petit garçon de 7 ans lorsque ses parents se séparent. Et puis je suppose qu'il devait y avoir une ambiance tendue à la maison.
J'étais pas conscient de la séparation.
Vous pensez ne pas être conscient,
ouais, voilà.
Mais de manière inconsciente, vous l'aviez tout à fait capté.
D'accord.
Ah, clairement, oui. Oui, oui, à 7 ans, on capte ce genre de choses. Ça, tout à fait, oui, oui, je pense. Donc, c'est ce qui a fait que il y a eu cette frayeur qui s'est traduite par des sortes de visions que vous avez eues. Et ensuite, ça s'est propagé à votre petite sœur, à votre mère. Tout le monde devait être dans un état, j'imagine, de nerfs, de tension, affaibli, enfin, moralement, pas au plus haut. Et puis, comme l'a dit si bien Renaud, après tout, il y a eu des bénéfices, puisque vous êtes retrouvés dormant dans la même chambre. Ça faisait un petit peu, on resserre les liens, quoi. On se retrouve physiquement. Et puis bon, c'est peut-être le bénéfice de cette histoire, une manière de se retrouver pour faire face à l'adversité de la situation que la vie vous imposait, quoi, tout simplement.
Ouais.
Voyez, voilà. En revanche, le deuxième phénomène que vous avez vécu,
oui.
Qui me paraît tout à fait intéressant, mais alors là, c'est beaucoup plus récent, hein.
Oui, c'est dernièrement. D'ailleurs, je suis parti de cette location parce que j'arrivais plus à rester à cause des choses qui se passaient, quoi.
Oui.
Donc, ce qui se passe, c'est premièrement, j'arrive et je visite un moulin pour le louer. Donc, je vois les lieux, tout ça. On ne parle de rien, on ne parle pas de ce qui s'est passé auparavant dans la maison.
Oui.
Je rentre chez moi, dans mon ancienne demeure, avant de prendre la location. Je passe une nuit chez moi et je fais le déménagement après. Pendant cette nuit, je fais un rêve d'un enfant. Je vois ma pièce, mais totalement différente. Je vois une pièce au-dessus, je vois une baignoire, je vois un enfant qui est mort dans la baignoire.
Mmh.
Enfin, un rêve pas très sympathique, quoi.
Non, j'imagine, oui.
Et donc, le matin, je me réveille et j'y pense encore. Et je vois les lieux, je vois le moulin, je vois tout ça.
Mmh.
Donc ensuite, j'emménage dedans.
Vous le connaissiez déjà, ce moulin, hein?
Moulin, je l'ai déjà vu une première fois pour le visiter, pour accepter la location, en fait.
Voilà, c'est ça, d'accord.
Donc, okay. J'emménage dans ces lieux. Et donc, je travaille de nuit, donc je dors pas souvent la nuit à la maison. Mais
ouais.
Quand j'ai mes nuits de repos, c'est 3-4 nuits d'affilée.
Mm-hmm.
Donc, je dors la nuit.
D'accord.
Et j'ai commencé à avoir des apparitions, des flashs, en fait. Je prends une douche vers 8-9 heures du soir. Je prends une douche, je me retourne. J'ai l'impression qu'on me regarde, je me retourne et je vois une lumière furtive, en fait, une petite fille de 4-5 ans qui marche furtivement comme ça.
Ouais.
Et plusieurs fois, ça m'arrivait sous la douche et plusieurs fois, ça m'arrivait dans ma chambre en pleine nuit. Ensuite, je vois ma fille régulièrement. Comme on est séparés, ma compagne et moi, je la vois régulièrement. Donc, les week-ends, quand elle venait à la maison, elle me disait régulièrement qu'elle voyait un... Moi, je pensais que c'était une fille que je voyais. Et ma petite fille me disait, elle a 2 ans, elle commence à parler, et elle me dit, elle vient me voir, elle me dit, le garçon, il veut jouer avec moi. Le petit garçon, il veut jouer avec moi. Le petit garçon, il dort. Le petit garçon, il est malade. Elle me parlait souvent d'un petit garçon.
Ouais.
Avec elle. Mais un garçon imaginaire. À 2 ans, je trouve ça bizarre qu'elle ait un garçon imaginaire.
Mm-hmm.
Et je faisais pas le rapprochement avec mes visions.
Ouais.
Et le petit garçon, puisque moi, pour moi, dans ma tête, c'était une fille. Et dans mon rêve, c'était une fille aussi.
Qui était noyée dans cette baignoire.
Ouais, qui était noyée dans cette baignoire.
Ouais.
Ensuite, je vois la propriété. Il y a eu des problèmes ici. Il y a un enfant qui est mort dans une baignoire, un garçon. Donc.
Ah, donc elle vous l'a confirmé après, quoi.
Après, quoi.
Ouais.
Donc
ouais.
J'ai pas plus d'explications. Elle non plus, parce que ça remonte à loin. Je pourrais pas vous dire la date.
Ouais.
Elle a racheté ce moulin. C'était avant les anciens propriétaires. Donc ça remonte assez longtemps.
20, 30 ans, 40 ans, 50?
Au moins 50 ans, facile.
D'accord.
Et donc ensuite, régulièrement, j'avais ces visions-là. Et ça me faisait un peu peur. Et la dernière vision que j'ai eue, c'est une nuit. Je me suis réveillé et je suis tombé... Enfin, je me suis réveillé, je suis tombé face à un petit garçon. À une vision, en fait, d'un petit garçon en chemise de nuit. Une genre de chemise de nuit longue qui tombait sur les pieds.
Alors, vous étiez là, réveillé, ou c'est dans votre rêve que vous avez vu ça?
Après, j'étais toujours assis et je me demandais si c'était un rêve ou si je rêvais éveillé ou si j'avais vu la personne.
D'accord.
Je vois ce petit garçon en pleine nuit et donc je me réveille et j'avais l'impression d'être dans un rêve. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Mais j'étais éveillé.
Ouais.
Et j'avais très très peur en lui parlant. Et il me dit, mon papa et ma maman sont pas là. Et il me dit, viens, je vais te montrer l'endroit. Et j'ai dit, de quel endroit tu parles? Et il me dit, là-bas, suis-moi au fond du jardin, parce qu'il y a un hectare de terrain où je suis, c'était dans une forêt.
Ouais.
Et il m'explique un endroit précis, un arbre, rejoins-moi, côté d'un arbre, je te montrerai. Et donc la nuit, je me suis levé, j'avais du mal à me recoucher, j'avais eu des angoisses, quoi.
Bah, j'imagine bien, oui, c'est pas... Ouais.
Pas sorti parce qu'il pleuvait vraiment, mais je voulais quand même aller voir. Et le lendemain matin, j'y suis allé, et j'étais à l'endroit précis où il m'avait indiqué, et il y avait le même arbre, tout, et il y avait une branche qui était coincée, une assez grosse branche qui était coincée entre le tronc et la terre, et qui me désignait l'endroit où il me désignait quand je l'avais vu, quoi, qui m'expliquait à côté du tronc d'arbre. Je m'explique mal peut-être, monsieur Bénédi, non ?
C'est-à-dire que lui vous a décrit verbalement,
oui,
le lieu qu'il voulait vous montrer.
En fait, il m'a décrit le gros tronc d'arbre et il m'a décrit le grillage à côté. Et
ouais.
Donc le seul endroit où il y avait un grillage et un tronc d'arbre,
mm-hmm,
c'était l'endroit où je suis allé.
Oui.
Et donc j'y suis allé, puis j'ai pas osé creuser. Et après j'ai demandé à partir à mes propriétaires, quoi, parce,
ouais,
que j'en pouvais plus, quoi.
Ouais.
Et donc je vous avais appelé auparavant pour avoir des explications sur ça.
Mmh, mmh.
On n'avait pas réussi à se contacter et donc moi par la suite je suis parti, quoi.
Ouais. Et là vous êtes parti il y a combien de temps de ce lieu ?
Là ça fait 2 semaines.
Ah oui, donc c'est vraiment très récent alors.
Très récent, j'ai déménagé et ça fait 2 semaines que je suis parti. Et là,
ouais,
ça se passe très bien dans la maison où je suis.
Ouais.
Et c'est quand même une vieille maison en pierre aussi ici.
Mais il n'y a plus rien, je veux dire, là, plus de cauchemars, de rêves, de...
Non, j'ai plus rien du tout.
Et votre petite fille non plus ?
Et ma petite fille, elle ne parle plus de petit garçon.
D'accord.
Et ce qui me semblait bizarre, c'était toujours le petit garçon. Et donc, j'en reviens à ce que je disais,
mm-hmm,
dans mes rêves et dans mes visions, je pensais voir une petite fille. Et en fait, ma fille me disait c'est un petit garçon, et ça m'a confirmé que c'était un petit garçon.
Mm-hmm.
Et donc, ce rêve éveillé, ou bien cette vision que j'ai eue, la dernière vision que j'ai eue, ça m'a fait assez peur, quoi.
Ouais.
Et donc, comme j'avais personne qui était là pour me guider un peu dans tout ça, j'ai préféré partir.
Mm-hmm.
Voilà. Et puis, je suis parti, ça s'est calmé. J'ai plus de rêves bizarres, j'ai pas,
ouais,
de... Et ma fille me parle de tout ça.
Mm-hmm. Renaud Évrard,
oui,
je me tourne vers vous. Que pensez-vous de cette affaire qui est assez complexe ?
On n'a pas intervenu plus tôt. Peut-être qu'on aurait pu éviter un déménagement, j'en sais rien.
Ouais.
Y a plusieurs choses, encore une fois. Ce que voit votre fille, vous dites, c'est bizarre à 2 ans d'avoir un compagnon imaginaire. C'est pas bizarre, c'est même fréquent, en fait. Les enfants ont pas la même vision de la réalité que nous, on peut dire ça. Avoir des compagnons imaginaires virtuels, c'est quelque chose de très fréquent. Ça peut durer pas longtemps, ça peut revenir, ça peut repartir, ça peut durer jusqu'à 10 ans. Ça dépend de socialisation. Elle est peut-être troublée aussi, comme vous l'y étiez, par rapport au témoignage d'avant, au premier phénomène, dans une période de stress. Vous avez vu apparaître une personne qui vous tendait la main, une femme... au bord de votre lit, c'est peut-être la même image de soutien ou d'amical que développe votre fille, mais en même temps c'est une problématique qui lui appartient à elle. Encore, j'ai pas l'impression qu'il faille forcément faire le lien avec ce que vous avez vu dans votre maison. Bon c'est peut-être, hein, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un lien, mais il faut peut-être pas le faire pour la santé, pour le bien de votre fille. Après, dans cette maison, certes, vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout et peut-être qu'il y avait effectivement creusé des fois. Des fois, se matérialise sous la façon de ces apparitions, mm-hmm, de ces dialogues entre le rêve et la veille, des vraies perceptions extrasensorielles qui mènent à des découvertes d'objets ou de choses, d'une histoire qu'on ignorait. Donc, c'est pas interdit qu'il y ait vraiment quelque chose.
Qu'il y ait vraiment quelque chose dessous, là.
Que ce petit garçon. Qu'il ait existé ou pas, qu'il soit aussi, mm-hmm, qu'il y ait aussi une métaphore, quoi, de l'histoire, ouais, de ce moulin, et voulu vous montrer, ça aurait peut-être été quelque chose qui vous aurait aidé à vous approprier les lieux. Ça peut être n'importe,
ouais,
quoi, hein, des jouets, n'importe quoi.
Ouais.
Et bon, voilà, maintenant vous êtes parti, mais je pense que, oui, c'est, moi je vous dis, c'est effrayant, effectivement, d'avoir ce genre de flash, sensation de présence, enfin, dans une maison où on est seul. Mais peut-être, si ça vous arrive de nouveau, allez peut-être un peu plus au bout. Il n'y a pas de danger physique,
oui, mais,
ou quoi que ce soit.
C'est pas un danger physique, je crois, que redoutait David, mon cher Renaud. C'est plutôt la peur de trouver un cadavre. C'est ça, David ?
Non, pas,
c'était pas la peur de trouver un cadavre, c'était de creuser, vraiment trouver quelque chose et me dire je rêve pas quoi. C'est vraiment
Ouais. Enfin moi j'aurais eu peur de j'aurais eu peur de retrouver le squelette du petit garçon, je vous avoue.
Moi c'est surtout de me dire en fait ça m'aurait fait peur aussi parce que j'en ai parlé à mon ex-femme en fait et elle m'a dit ouais, t'aurais dû creuser quoi parce que t'aurais eu la conscience tranquille de te dire si tu t'imaginais des choses ou si c'était vraiment vrai ce que tu voyais.
Ouais.
Donc comme vous disiez, j'aurais pu trouver peut-être un jouet ou alors vraiment un cadavre quoi. Et j'y ai pensé à ça aussi, c'est vrai.
Et vous n'auriez pas envie histoire de vraiment clore le dossier d'aller jusqu'au bout, on vient Pierre et moi par exemple, on vous accompagne et on creuse là où il y a à creuser quoi.
Moi je suis tout à fait d'accord. Déjà la dernière fois que je vous avais appelé, je vous avais même proposé de venir.
Ouais.
Et de vous montrer les lieux quoi peut-être passer même une nuit ensemble et peut-être vous auriez pu constater quelque chose vous-même quoi.
Mais déjà là objectivement, il y a un lieu qui vous a été désigné.
Oui.
Et puis bon, là c'est quelque chose de palpable. On y va, on creuse, il y a rien, il y a quelque chose. À ce moment-là, il y a quelque chose. Je me tourne vers Pierre. Pierre, que pensez-vous de ce qui est arrivé là à David?
Ça me paraît être. Il est possible que David ait une faculté de clairvoyance.
Une perception fait, comme ça qui est...
Oui, de perception, perception extrasensorielle, de savoir un petit peu ce qui s'est passé dans ce lieu.
Ouais.
Bon, pour une raison ou pour une autre, ça peut être la configuration des lieux, ça peut être un événement familial, ça peut être n'importe quoi, qui fait qu'à un moment où il a cette possibilité de sentir l'atmosphère du lieu, l'historique du lieu... Mais ensuite, il va falloir concrétiser, acquérir consciemment, donner corps à ses impressions, donner corps consciemment à ses impressions. Et là, il pourra y avoir une construction de l'esprit pour montrer.
J'ai pas compris. Donner corps.
C'est-à-dire, ce sont des phénomènes subtils. On a une clairvoyance où on ressent un événement qui s'est produit dans un lieu. Ça passe. En grosse partie par l'inconscience, mais il va falloir y donner corps pour en prendre conscience, objectiver. Non, c'est prendre conscience.
Oui, sous forme d'un rêve prémonitoire, d'un flash, d'une vision, d'une apparition.
Tout à fait.
Il faut que ça sorte.
Donc,
quoi.
Il faut que ça sorte et ça va sortir par la clairvoyance.
Ouais, d'accord.
Et tout ça, ça donne lieu à une reconstruction donc de l'histoire par la personne à un moment donné.
Ouais.
Donc ça pourra se traduire et ça a priori le moyen l'un des moyens les plus évidents c'est l'apparition, c'est le rêve et l'apparition.
Ouais.
Donc pourquoi pas penser, enfin je serais pas opposé à l'idée de penser que David a une certaine faculté ou à ce moment-là il a eu une certaine faculté qui lui a donné qui lui a permis de connaître cette historique du lieu.
De la maison. Donc vous seriez pour aller creuser.
Ah oui, si on doit y aller, moi j'y vais demain. Peut-être pas demain, mais après-demain, pas de problème.
Bon, je sens qu'on va être obligé de venir chausser les bottes et prendre les bêches, hein, David.
Carrément,
d'autant plus.
Bah écoutez, oui, on va venir. Hein.
D'autant plus que quand même, il y a un élément là qui me...
Ah oui, non mais ne serait-ce que même s'il n'y a rien à trouver, mais au moins pour vous aller au bout.
Ouais.
Et après bon, on verra bien, mais au moins aller au bout.
Je crois comprends. Que c'est plus
pas
important.
Pas passer pour un fou devant le propriétaire quoi, surtout aussi qu'on soit à trois à passer pour des fous quoi. Alors,
oui, voilà, c'est gentil David, c'est sympa. c'est sympa, j'apprécie, ouais. Venez, on sera plusieurs à passer pour des dingues.
Pas de problème.
Non, mais il n'y a pas de souci. Ouais.
Il y a réellement une interrogation à clore parce que il y a quand même une incohérence dans le récit. C'est que la propriétaire était au courant du décès d'un garçon.
Cette histoire, il y a fort longtemps.
Voilà, longtemps.
Ouais.
Donc c'est une histoire qui est connue, c'est un décès qui est connu. Et j'ai du mal à imaginer qu'on ait enterré un garçonnet à la sauvage, sauvagement, dans un coin d'un jardin,
alors que
c'est un décès tout à fait normal.
Donc moi, je ne sais pas du tout ce qu'on va trouver. D'ailleurs, il ne m'a jamais dit ce qu'il y avait, l'enfant.
Ce sont des babioles, mais des choses, des jouets, fait. Voilà, mais des choses importantes pour lui ou importantes peut-être pour vous, on ne sait pas.
Oui.
Déjà qu'il y ait quelque chose, ce serait pas mal.
Ce serait pas mal sur le coup. Maintenant, ce serait à voir. Enfin, faut voir
ce
qu'on peut faire de ce cas-là. Il faut d'abord le documenter. C'est pas évident d'en sortir des évidences, des preuves entre guillemets de quoi que ce soit.
Comment on peut faire justement pour développer vous parliez de dons, et comment on peut faire pour développer ce don?
Quand on veut développer des capacités physiques, on va s'entraîner pour développer un don, une faculté, on va dire. C'est pareil, c'est en fait l'entraînement personnel. Il va falloir s'exercer, il faut tenter de faire rejaillir cette faculté sur des objets. Par exemple, vous pouvez essayer de prendre un objet dont on ne vous a rien dit. Et essayer d'en retirer une information caractéristique
à qui il appartenait, un lieu,
de préférence une caractéristique que ne connaît pas la personne qui vous a fourni cet objet. Donc là vous êtes vraiment indépendant, elle peut pas vous influencer. Alors il faut trouver cette caractéristique, cet état d'esprit,
je pense pas qu'en touchant un objet j'arrive à sentir quelque chose, mais par période j'ai eu d'autres visions aussi.
Il était
avec ma compagne. On vivait dans un petit appartement et un jour je me suis réveillé et j'ai vu un homme au pied de mon lit.
Ouais.
J'ai vu un homme qui essayait de rentrer chez moi, et qui était chez moi en fait, et que j'avais fermé le verrou. Deux fois ça m'est arrivé.
Est-ce que ça avait un rapport avec le lieu?
Je sais pas. Je sais pas du tout parce que je cherche pas à comprendre.
Mais
justement, dans ces cas-là, il va falloir chercher à comprendre.
Il vous
arrive une apparition, une vision de ce type-là, il va falloir creuser pour tirer vraiment, pour savoir vraiment si ça correspond à quelque chose.
Moi, je pense pas parce que j'ai mon ex-compagne qui est à côté de moi, et elle me dit, elle m'a tapé dans le bras en me disant si à l'époque il y avait eu une dame avant nous qui était morte. Mais c'était un homme que j'avais vu, un homme.
Voilà, c'était pas une dame, tout à fait.
Ah oui, mais il faut quand même aller plus loin. C'est une investigation. Documenter un cas, ça prend du temps, il faut s'y investir. Ouais. Il peut y avoir des rapports ou des événements qui paraissent sans queue ni tête, qui paraissent disjoints, qui peuvent se recouper ou rester indépendants les uns des autres, mais donner des éléments de réflexion sur le cas.
Mon cher David, il y a d'autres témoignages qui arrivent. On va donc être obligé de terminer pour ce soir avec vous. En revanche, évidemment, j'ai vos coordonnées. Donc, je vous rappelle lundi ou mardi.
Okay.
Et Pierre a fait l'acquisition de magnifiques bottes en caoutchouc il n'y a pas longtemps. Donc, ce sera l'occasion de les étraîner.
Sûr.
Et on en discute avec vous et on fera le point dans une prochaine émission, si vous le voulez bien, d'accord?
Merci.
En tout cas, on va venir et puis on ira passer pour trois joyeux fous sur le terrain de ce fameux moulin, d'accord?
Et j'adore votre émission. Au revoir.
Au revoir. Au revoir, merci beaucoup mon cher David. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit, 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler si vous pensez avoir vécu un phénomène de l'ordre du paranormal. Vous pouvez également m'envoyer en SMS au 71 200. Vous tapez Sud sur votre portable et ensuite vous rédigez votre texte et vous nous envoyez tout ça. Renaud Évrard, vous nous parlerez du nouveau bulletin métapsychique qui vient de sortir, le numéro 4, dans quelques instants, si vous êtes d'accord.
Oh oui, tout à fait. Les ectoplasmes et les matérialisations.
Parfait, donc sujet, oui, assez, ça va, c'est du dense, c'est du lourd. Donc vous nous en parlerez dans quelques instants. Et puis, avec Pierre Mathias, nous vous parlerons également d'une nouveauté sur le site psylande.org, d'un forum qui s'adresse à ceux qui s'intéressent au paranormal. Et puis, évidemment, à côté de ce forum, tous les podcasts des aventuriers de l'étrange que vous allez pouvoir télécharger. On se retrouve dans quelques instants.
Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédi, sur Sud Radio.
Le bulletin métapsychique numéro 4 vient de sortir. On va en parler dans quelques instants avec Renaud Évrard de l'Institut Métapsychique International. Pierre Macias a quelques nouvelles à nous donner également concernant l'INRES, l'Institut National de Recherche des
Expériences. Sur les expériences extraordinaires.
Voilà, sur les expériences extraordinaires. Mais d'abord, une nouveauté, un élément de plus dans la famille des aventuriers de l'étrange, puisque nous avons le plaisir d'accueillir William. Bonsoir William.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. William s'occupe de la gestion et il est modérateur sur le site psylande.org, sur la page des aventuriers de l'étrange. Expliquez-nous cette nouveauté, Pierre Macias.
Ben en fait, William est même un petit peu plus que modérateur.
C'est le créateur.
C'est le créateur, puisqu'il nous avait contactés il y a quelques semaines pour nous proposer de mettre en place un forum des aventuriers de l'étrange.
Oui, un forum donc, sur lequel on puisse chatter avec d'autres connectés.
Donc on va pas discuter en direct, mais on va pouvoir laisser des messages, obtenir des réponses. J'espère que j'y ferai assez souvent un tour.
Ouais.
C'est bon, l'heure de suivre ça autant qu'on pourra. Mais ça permettra en tout cas aux personnes aux gens qui écoutent les aventuriers de n'importe où sur la planète, oserais-je dire, de communiquer aussi par ce biais-là et de communiquer entre eux, d'échanger
des hypothèses, des avis,
proposer des choses. C'est un forum.
Nous proposer des sujets. William, parlez-nous un petit peu de ce forum, essentiellement pour pouvoir échanger, j'imagine.
Oui, c'est le but principal d'un forum, pouvoir discuter entre les personnes, d'où qu'elles soient, tant d'avoir de connaissances particulières, voire juste autour d'un sujet.
Oui.
Voilà. Donc j'ai monté ça de façon à ce qu'il soit le plus pratique et le plus accessible, même pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter les forums.
Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un système d'inscription? On s'inscrit, on prend un pseudo et ensuite on pose une question ou on apporte un avis sur une question qui est déjà déposée. C'est comme ça que ça va fonctionner?
Oui, alors quand on arrive, on peut déjà commencer à lire les règlements de base, de l'entente entre personnes.
Oui, oui, politesse évidente, évidemment, voilà. Respect de l'autre, de la vie de l'autre, bien entendu, oui, tout à fait.
Bon, les choses communes. Bon, j'ai aussi fait un petit lexique de tous les termes du forum, tous les mots qui sont employés.
Oui.
Et j'ai fait aussi quelques tutoriels pour les personnes qui n'auraient pas l'habitude de venir. Et tout est expliqué, détaillé en images.
Oui.
Donc il leur suffit avec un mail, ils prennent un pseudo, un mot de passe, et voilà. Après c'est bon, il leur suffit de valider.
Oui, tout à fait. Alors, il y aura, vous le disiez, Pierre Macias, des internautes de tout autour de la planète qui peuvent évidemment laisser leur avis, leurs commentaires, nous donner des idées de sujets, et pourquoi pas d'ailleurs sur ce forum. On a reçu quelques emails, même des États-Unis d'ailleurs. Une dame disait, tiens, j'ai un problème pour télécharger les podcasts de cette semaine.
Absolument.
J'habite aux États-Unis, je m'en rappelle plus où d'ailleurs, aux États-Unis, mais bon, voilà, si vous seriez bien gentil de résoudre ce problème, voilà. On est même écouté aux États-Unis.
Et oui, de Taïwan aux États-Unis.
Et Taïwan également, oui. Oui. C'est vrai. Ce forum est en ligne à partir de quand, mon cher Pierre Macias?
Alors, il est déjà en ligne. On peut y accéder dès maintenant par la page des aventuriers.
Voilà.
Donc, en allant sur Psyland, on accède par le lien dans le bandeau à la page des aventuriers de l'étrange. Et là, immédiatement, c'est sur la page, en haut de page, On a le lien, le forum des aventuriers de l'étrange.
Ouais, ouais, très bien. Donc psiland.org, psiland.org. Vous pouvez aller tout de suite d'ailleurs sur le forum, laisser vos questions, vos avis, vos témoignages également.
Oui. Alors, il y a même une partie témoignage sur les prémonitions. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner pour l'instant, mais on peut tenter l'expérience en tout cas. Pour les gens qui ont vécu des prémonitions, ils peuvent nous laisser leur témoignage. Alors, ils verront les explications qu'a laissé William dans un petit email au début.
Ouais.
Et donc, aussi précis que possible, détaillé, avec des éléments bizarres, s'ils se trouvent. Attention à ne pas laisser de coordonnées personnelles tout de même, parce que c'est lisible par tous.
Ouais.
Et par là, ben,
On les stocke.
Le rêve, en fait, ce serait que quelqu'un identifie un rêve comme étant prémonitoire et nous le laisse en tant que témoignage.
Ouais.
Et on regarde s'il se vérifie par la suite.
2 mois après, on regarde régulièrement s'il y a quelque chose en corrélation avec un des rêves prémonitoires. Ouais. Merci beaucoup, William.
Merci.
Et à très bientôt, William, sur le forum des aventuriers de l'étrange. Bonne soirée. Au revoir. Pierre Massias, avant de retrouver Renaud Évrard et parler du numéro 4 des bulletins métapsychiques, des nouvelles de l'INRES, de notre ami Stéphane Alix.
Oui, alors Stéphane Alix, que nous avons reçu aux aventuriers.
Bien sûr, plusieurs fois.
Qui a monté donc cette association, qui a pour objectif de décrire, d'amener des professionnels de la santé à s'intéresser à ce genre de, aux phénomènes extraordinaires, aux expériences extraordinaires.
Ah ouais.
Donc, il est très, très actif, Stéphane. Et l'association lance des soirées cinéma.
Mm-hmm.
Donc, la première va se dérouler cette semaine. C'est, que je retrouve mes notes, vendredi 15 février. Donc, où sera diffusé le film L'Odyssée de l'espace.
Ah oui. Grand classique. Ah bah oui.
On peut faire moins.
Ah bah oui.
Et après lequel... les participants, les
spectateurs,
voilà, pourront discuter avec Jean-François.
Stanley Kubrick.
Non,
il est pas là.
On va s'entendre avec Stéphane Alix. Donc, ils pourront discuter avec Jean-François Clairvoy, qui est l'un des supporteurs de l'INRES.
Ouais. C'est à Paris, hein, faut le signaler.
Ah oui, alors attention, c'est à Paris. Bon, le mieux, c'est pour bien savoir d'où ça se passe et comment ça se passe. Tout est décrit sur le site de l'INRES, dont je mettrai le lien sur la page.
D'accord.
Sur la page des aventuriers de l'étrange. Et dans la foulée, la semaine suivante, c'est le jeudi 21 février, toujours à Paris. Là, les spectateurs pourront voir un film, en fait un documentaire, qui est le documentaire de la rencontre de Maud Christen avec le Dalai Lama.
Oui.
Et au cours de la soirée, ils pourront discuter avec Maud Christen.
Génial. Maud Christen, voilà, à qui on transmet d'ailleurs
toutes nos amitiés.
Tout à fait. C'est bon, Pierre, on a fait le tour.
Donc, plaisir. Vendredi 15 février, pour l'Odyssée de l'espace et Jean-François Clairvoy.
Ouais.
Et le jeudi 21 février, pour spiritualité et clairvoyance, avec Maud Christen.
Et c'est promis, on essaiera d'organiser ce type de rencontre dans notre grand sud, à Bordeaux, Marseille, Montpellier, ou à Toulouse, éventuellement, ou même dans toutes ces villes que je viens de citer, ce serait pas mal non plus. Hein.
Voyons là.
Voilà. Dans quelques instants, le numéro 4 du bulletin métapsychique.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédi sur Sud Radio.
Renaud Évrard, la chair de l'esprit, ectoplasme et matérialisation. Ça fait dresser les cheveux sur la tête, rien que le titre.
Ben, je crois que c'est un peu ça, parce qu'on a eu beaucoup moins de commandes de gens qui ont eu vraiment peur. Je sais pas, on a vraiment mal joué là, sur le coup. Il faut savoir que c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps de la recherche au début du XXe siècle et jusque dans les années 30.
Oui.
D'ailleurs, on parle d'études qui ont lieu dans les années 30 encore, à Limy et ailleurs. C'était quelque chose qui était tout à fait étudié et que maintenant nous fait encore frisser les cheveux sur la tête et tout. Et donc, dans ce numéro, donc, qui est le quatrième, le bulletin métapsychique ne rapatera plus sous cette forme, il va subir des modifications, donc c'est un grand numéro quand même, avec des interventions donc des membres du groupe étudiant de l'IMI, mais aussi du comité directeur, Bertrand Meyers et Paul Duraderon, et on parle à l'Académie des sciences sur des matérialisations, effectivement, sur l'ectoplasmie étudiée par Richer, prix Nobel.
Oui.
Donc j'ai écrit un petit article là-dessus. Sur les moulages ectoplasmiques, qui
oui.
sont quand même très connus de chimie, qui ont fait l'objet d'expériences.
Et de nombreuses controverses. Ouais.
Et de nombreuses controverses. En fait, c'est ça, c'est revoir 80 ans après, voire 100 ans pour la Villa Carmen, où on en est dans ces controverses qui n'ont pas fini. Il y a encore des articles qui sont publiés pour remettre en cause certaines choses.
Ouais.
Et donc là, on fait un peu le point sur tout un domaine de la recherche un peu oublié. Et on se rend compte qu'il y a eu des expériences tout à fait correctes au niveau du protocole. Et donc, pour nous, c'était intéressant de retrouver ce passé-là. Quoi.
Mmh. 5 euros pour ce ouais. bulletin métapsychique.
Il suffit d'aller sur le site de l'IMI, www.metapsychique.org, et là, vous trouverez facilement le bulletin. Il y a une petite image, on clique dessus et on y arrive, quoi. Et on peut ouais. le recevoir chez soi, voilà.
Oui, oui, tout à fait, 5 euros. Et alors, est-ce que c'est indiscret de demander sous quelle forme il va apparaître le prochain numéro?
Je ne sais pas, je ne suis pas rédacteur en chef, c'est Lodi Larousse. Et, ouais. et donc, elle est assez contente de cette forme-là, mais elle a envie de faire plus. Elle rêverait même d'une revue en kiosque. Et c'est pour ça qu'elle a mis un questionnaire de satisfaction
ouais.
qui est à côté du BM, qui est joint à ceux qui sont envoyés et qui permettrait justement de savoir un peu qu'est-ce qui serait attendu par le public et justement de voir à partir de ça pour s'améliorer mm-hmm. le plus possible. Sachant que voilà, il y avait une revue métapsychique très scientifique jusque dans les années 80
ouais.
et il n'y a plus de publication pendant 20 ans. Le bulletin métapsychique a fait une première année comme ça avec 4 numéros. Et on espère évoluer vers encore plus, quoi.
Ouais. Bien, très bien. Ben écoutez, en tout cas, le numéro 4 est disponible sur le site métapsychique.org. De toute façon, tous ces liens, vous le savez, toutes ces références, vous les trouvez sur le site des aventuriers de l'étrange, psyland.org, psyland.org. Et là, vous allez trouver toutes les informations nécessaires, tout ce que l'on a cité dans cette émission. Et rendez-vous également sur le forum des aventuriers de l'étrange sur psyland.org. Dans quelques instants, au 0826-300-300 sur Sud Radio, dans Les Aventuriers de l'étrange, un autre témoignage.
Sud Radio, Les Aventuriers de l'étrange.
Avec un nouveau témoignage au 0826-300-300. Martine, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Merci de venir nous rejoindre dans Les Aventuriers de l'étrange. Alors, ma chère Martine, il est question d'une maison où il se passe de choses assez bizarres. Une maison de famille, c'est ça?
Tout à fait.
Alors, expliquez-nous ça en détail.
Alors, la première fois qu'il s'est passé quelque chose dans ma maison natale, c'était dans les années 80.
Ouais.
Donc, je l'habitais avec mon premier mari et une nuit... Il a vu maman qui avait décédé 6 mois auparavant. Il l'a vu complètement de haut en bas. Enfin, elle était vraiment dans le couloir. Elle le regardait. Il a eu très très peur. Et
ouais.
moi, j'étais allée me coucher depuis 5 minutes. Il est arrivé en me disant, j'ai vu ta mère dans le couloir, complètement affolée. Bon, sur le moment, ça m'a surpris. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il me raconte? Et puis, je voyais bien que c'était vrai, puis je voyais pas pourquoi il inventerait une chose pareille. Et le phénomène s'est reproduit qu'à 5 jours après. Il a été complètement affolé. Il a encore vu maman dans le couloir.
Oui.
Et voilà, donc ça a été la première fois où il y a eu quelque chose. Donc...
Mais est-ce qu'il vous a donné des détails sur ce qu'il a vu exactement, c'est-à-dire comment elle était habillée?
Oui, tout à fait. Donc il a décrit ses vêtements et bon, il a bien reconnu maman. Enfin, il l'a vraiment bien vue. C'est-à-dire, mm-hmm. il l'a vue entièrement.
Oui.
Entièrement.
Oui.
Et bon, sur le moment, la première fois, je me suis dit mais il dit n'importe quoi. Bon, je sais qu'il avait bu un peu de whisky ce soir-là avec un petit peu de vin à table. Et là, il était vraiment lucide, même s'il était un petit peu gay, on va dire. Là, il était complètement dégrisé.
Vous
vraiment effrayé.
Oui, vous voulez dire que il avait peut-être un peu abusé sur l'alcool. Je me permets de le préciser parce que ça peut avoir
oui.
Un intérêt dans la compréhension de ce qu'il a vécu. hein, après. Et lorsqu'il a vu donc cette apparition, oui, là du coup, tout est retombé au niveau zéro.
Oui.
Le choc émotionnel a été tel qu'il a été totalement dégrisé.
Complètement.
Oui.
Complètement.
C'est effectivement,
c'est
oui,
surprenant.
Et il l'a vu donc deux fois.
Deux fois. Et je vous dis, à 4-5 jours d'intervalle.
Mm-hmm.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, nous étions en instance de divorce, ça se passait pas très bien, il
n'était
pas très gentil. Et bon, moi, j'étais quand même très malheureuse, c'était un moment difficile à vivre.
Bien sûr.
Et la deuxième fois, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, bon, c'est maman qui me défend.
Oui, 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 oui.
Et ouais, puis, ceci dit, une quinzaine de jours après, il est parti, puis nous avons divorcé.
Oui.
Voilà.
Renaud Évrard, que pensez-vous de ces deux apparitions que Martine n'a pas vécues d'ailleurs? C'est son mari, son ex-mari, qui les a vues.
Oui, alors c'est vrai qu'on entend souvent des maris qui voient leur belle-mère et qui sont affolés, mais ça, c'est quand même un autre cas.
Oui, non, ça c'est autre chose, oui, non, c'est pas pareil.
Mais c'est vrai que quand on est obligé de parler d'une expérience qui nous a été rapportée, on peut pas vraiment aller très très loin.
Mm-hmm.
Vous avez donné vraiment les éléments que vous aviez, avec le stress qu'il pouvait avoir, la période un peu trouble, le fait de voir votre mère, je sais pas du tout ce que ça pouvait représenter pour lui. Et bon, c'est vrai que comme Louis l'a dit, le fait de prendre de l'alcool, de prendre des substances comme ça, enfin l'alcool c'est commun, mais c'est quand même une drogue qui produit des hallucinations, même avec des doses faibles, il est possible d'avoir des hallucinations, enfin ça facilite en tout cas,
ouais,
surtout dans les périodes où l'organisme est déjà affecté par des stress divers.
Oui.
Donc s'il a décrit les détails de la chose, ça peut aussi être une projection de son esprit de ce qu'il connaissait de votre mère, parce qu'il a quand même connu tout ça, quoi.
Ouais.
Après, je ne saurais pas vraiment aller beaucoup plus loin. Vous avez bien réagi du fait d'être quand même la voix de la raison, de le contenir là-dedans, mais en même temps de pas le prendre pour fou. Donc ça, vous avez fait ce que vous pouvez. Je pense que voilà, ça va être difficile de faire plus vu que votre histoire a pris l'issue qu'elle a pris.
Ouais.
Voilà.
Martine, vous avez alors là, c'est les premières choses que vous avez vécues par l'intermédiaire de votre ex-mari dans cette maison de famille. Mais l'histoire avec cette maison ne s'est pas arrêtée là, il me semble.
Alors non, pas du tout. Dans cette alors après, non, nous sommes, mon mari est parti, mais moi j'ai habité la maison, donc je n'ai rien remarqué de spécial
sur ce
phénomène. Après, moi, je suis partie à Paris et donc tous les étés, je revenais en vacances dans cette maison de famille. Il n'y avait pas de soucis non plus.
Mmh.
Et j'avais décidé de la louer. Donc, j'avais loué un premier couple qui restait presque un an. Bon, ils ont été mutés. Ça s'est bien passé a priori. Ils ne m'ont rien dit. Et le deuxième couple, donc un couple avec deux enfants... prennent la maison, et puis l'été qui arrive, je descends dans le sud, et puis nous rencontrons, nous sympathisons, enfin voilà.
Mm-hmm.
Et puis la locataire me dit, c'est bizarre, elle me dit, est-ce que quelqu'un est mort dans ta maison? Bon, je dis, oui, ma grand-mère, ça fait plus de 25 ans, elle me dit, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression qu'il y a un fantôme. Bon, moi, bien sûr, je voulais être rassurante, je dis, non... Elle me dit, bon, on n'entendait pas au grenier. Je réponds, c'est des chats, des loirs, comme dans toute maison de campagne.
Oui, oui, oui. Ouais.
Ensuite, elle me dit, non, ce qui est curieux, c'est que le soir, on se couche, tout est éteint. On se réveille le matin, toutes les lumières de la maison sont allumées, toutes les portes sont ouvertes et aussi les portes des armoires.
D'accord.
Bon. Alors là, c'était déjà...
Oui.
Alors bon, j'ai pensé à l'apparition de maman avec mon ex-mari, non, mais bon, je me disais, bon, maman est là, elle tenait à la maison, c'est possible, mais je ne savais pas, vraiment. Bon, j'ai essayé de les rassurer, de leur dire que bon, c'était pas possible, que de toute façon, bon, maman n'était pas morte là, donc, puis même si c'était maman, elle voulait pas leur faire de mal, enfin, je ne savais vraiment pas quoi leur dire pour les rassurer.
J'imagine, oui. Ouais.
Voilà. Donc, les phénomènes ont continué. Pour d'autres vacances, je suis redescendue, donc on a reparlé des mêmes phénomènes. Elle me dit, fais quelque chose. J'ai dit, quoi faire? Moi, je ne sais pas. Alors, il y avait une bouteille d'eau bénite dans un placard, donc je l'ai prise. J'ai béni toutes les pièces. Puis j'ai dit, maman, tu arrêtes tes bêtises, tu fais peur aux locataires, c'est pas sympa, etc. Si c'est toi, tu arrêtes.
Oui. Là, vous avez improvisé. Enfin, là, vous vous dites, bon, il faut faire quelque chose.
Elle me demandait de faire quelque chose. Moi, je ne savais vraiment pas quoi faire. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'est ce qu'il me disait était vrai? Mais bon, le témoignage du couple, les enfants, je vois pas pourquoi ils auraient menti. Donc, j'ai fait ça et le phénomène s'est arrêté. Voilà.
D'accord.
Et il a repris quelques mois après. Elle me téléphone. Bon, je descendais pour les vacances, on se revoit. Et c'est son mari, là, qui m'explique qu'il a été projeté deux fois de suite, très violemment dans le couloir, jeté à terre, par une force invisible. Et deux fois de suite, à quelques jours d'intervalle. Donc là, c'était quand même différent.
Oui.
Et peu de temps après, bon, ben, ils ont quitté la maison, ils ont déménagé, ils sont partis sans nous laisser d'adresse, alors que nous avions convenu de rester en contact, ni de coup de fil, ni d'adresse. Et puis par la suite, je me suis aperçue aussi qu'il m'avait, j'avais entreposé des objets, des meubles au grenier, mais ils avaient quand même pris des choses.
Ce qui explique qu'il ne vous ait pas laissé de...
Ben voilà, donc expliquer pourquoi ils étaient partis comme cela.
Ça, on comprend, oui.
Et deux années après, j'ai rencontré un médium. Donc, maman était là. Elle m'a dit, votre maman est là, elle a des choses à vous dire. Voilà son prénom, voilà, je vais vous prouver que c'est elle. Donc, elle a laissé prouver que c'était maman. Elle m'a raconté des tas de choses, bien sûr, sur moi, sur notre vie, etc.
Oui.
Elle m'a dit, oui, vous avez une maison dans le sud-ouest, il ne faut pas la vendre, il faut la garder, votre maman est bien, et puis et vos locataires vous ont volé ça, ça, ça et ça. Et en effet, après j'ai vérifié, il me manquait bien, j'avais pas vidé tous mes cartons, il me manquait bien des objets.
Ouais. C'était des objets de grande taille, de grande valeur ou...
Il y avait de la vaisselle ancienne, enfin surtout des objets de famille.
Oui.
Mais le plus du choix, c'est d'avoir été trahi, parce que je leur avais fait confiance, et ça a été très difficile.
Oui, parce que vous aviez établi de bonnes relations.
Oui, de toute façon, on avait sympathisé, on faisait des grillades, on s'invitait à déjeuner, voilà.
Et qu'est-ce que vous a dit donc ce médium que vous avez contacté? Qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre?
Alors, donc, elle m'a dit que ma mère... donc avait fait ses manifestations, les lumières, les portes et autres, et qu'elle avait appelé mon papa, qui était à un niveau plus haut, pour qu'il intervienne. Et c'est donc papa, donc le médium a revu la scène, et elle a vu donc papa qui jetait le locataire, le monsieur, à terre brutalement. Voilà.
Donc oui.
Pardon, en décrivant la maison et les pièces, l'endroit où ça s'était passé, avec forte précision.
Oui. Martine, on se fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio avec Renaud Évrard et Pierre Mathias pour faire le point un petit peu, revenir sur votre témoignage que je trouve très intéressant. À tout de suite.
Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio.
Avec le témoignage de Martine, Renaud Évrard, que pensez-vous de cette deuxième partie de témoignage et de cette entité, enfin de ce retour de l'au-delà des parents de Martine pour que ces intrigants débarrassent la maison familiale finalement?
Ouais, en même temps, il y a quand même un an où il y avait un couple qui a vécu là sans problème. Donc le fantôme s'est manifesté un peu en retard.
Il s'est manifesté visiblement pas que parce que le deuxième couple était volé des choses, quoi, était malfaisant.
Bon, ils l'ont volé, mais ça ment sur la fin. rien. Enfin, je veux dire.
C'est vrai. C'est vrai. En même temps, c'est vrai. Ouais, ouais.
Bon, c'est une façon. Enfin, je veux dire, c'est un élément. Ben, on peut le comprendre de différentes façons. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant dans ce témoignage-là, c'est que ensuite, Martine va voir une médium qui lui raconte tout et qui avec cette précision de voyante. Plutôt que de médium, ou encore que, enfin, pour les parapsychologues, il y a un mélange des deux, avec cette précision-là, elle donne en même temps une théorie expliquant tout ce qui s'est passé, quoi. Avec les différents, enfin, le père qui intervient, la mère qui intervient pour telle ou telle action.
Ouais.
Mais ça reste finalement une théorie de une explication qui s'est passée, il y en a peut-être d'autres. Et on a du mal, là, c'est très intéressant de voir. Est-ce que c'est en rapport avec la famille? Est-ce que c'est la problématique de la famille qui a pu se régler, par exemple, lorsqu'elle a fait appel à Martine comme exorciste improvisé, et ça a eu un effet, au moins temporaire, mais le problème a persisté, hein, mais donc c'était de voir est-ce que la famille avait un problème qui s'est réglé de cette façon-là temporairement, mmh. Ou est-ce que c'est un problème plus durable, et là on l'a bien cerné avec la médium et Martine l'a bien vu, qui serait de garder la maison dans la famille parce qu'il y a encore des accroches, et là ça met plus Martine au centre du problème, quoi.
Ah,
c'est
oui.
C'est vraiment là plutôt elle qui veut ou qui a le souhait inconscient qui a aussi la mission finalement de conserver la maison.
Mmh. Martine, est-ce que vous sentez que vous devez garder cette maison? C'est une volonté que vous avez, une vraie envie que vous avez de garder cette maison au sein de la famille?
Ah oui, tout à fait. Puis maman me l'a demandé en plus.
Ah oui. Oui. Donc elle vous a investi d'une mission, oui, en quelque sorte, quoi, de préserver la maison au sein de la famille.
De garder la maison.
Ouais.
Ne pas la vendre.
Mmh. Et que pensez-vous de ce que vous a donné Renaud comme explication? Ça vous dit quelque chose? Ça vous parle?
Oui, tout à fait.
Ouais. Pierre Mathias.
Je pense que je vais rester totalement dans les explications de Renaud.
Ouais.
Ça peut être un chemin tout à fait valide. Le médium a monté son histoire aussi, a vu cette histoire. Il est difficile comme ça, après coup et dans ce contexte-là, de donner, de trancher, je vais dire. Je vais rester. Donc, je vois pas de ficelle, de lien à tirer pour aller dans une autre voie. Je vais être totalement en accord avec Renaud.
Ouais. Machin Martine, est-ce que vous avez vécu, alors tout au long de votre vie, des phénomènes comme ça, enfin, soit des prémonitions prononcées, soit des rêves prémonitoires, soit des ressentis très forts, des sensations. Vous voyez, c'est une petite chose que.
Il m'est arrivé autre chose, en effet.
Ouais.
Quand j'étais locataire en région parisienne.
Oui.
Nous avions loué donc une maison très agréable avec un beau jardin, un monsieur qui était veuf.
Oui.
Il venait de perdre son épouse, ça faisait à peine un an.
Oui.
Et dans cette maison, j'avais toujours l'impression d'être suivie, qu'il y avait toujours quelqu'un derrière moi, quoi que je fasse, ou que j'aille, ou sur le sol, à l'étage, je me retournais sans cesse, comme si quelqu'un était dans mon dos.
Et cela en permanence, c'était...
En permanence, tout le temps.
Oui.
Et c'était surtout plus fort que quand mon mari n'était pas là, qu'il était en déplacement. Et dans notre chambre, j'avais vraiment l'impression que je n'étais pas seule.
Oui.
Donc, ça durait, quoi. C'était déjà une année, on sentait une présence. J'étais pas quelquefois très très à l'aise, il m'arrivait même de dormir la lumière allumée.
Oui.
Et une nuit, donc, j'ai senti quelqu'un qui me serrait, donc mon mari n'était pas là, qui m'enlaçait, un corps physique, invisible. Et là, j'ai été paralysée, j'ai eu peur, je ne pouvais plus émettre un son. Et puis j'ai pensé, bien évidemment, à cette dame qui était décédée,
oui. Oui.
Que le monsieur nous disait qu'elle tenait énormément à sa maison. Et avec la pensée, parce que je ne pouvais pas parler ni rien faire, j'étais complètement affolée dans mon lit. Donc je lui ai dit, bah, écoutez, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de votre maison. Votre mari n'est plus là, mais il habite plus loin. devrait y aller plutôt chez lui, etc. On va bien prendre soin de la maison, du jardin, vous pouvez être tranquille. Mais merci, laissez-moi.
Ouais.
Et à partir de ce jour-là, je n'ai plus senti personne ni une présence dans la maison.
Le phénomène là de ce de cette personne de ce corps qui vous enlaçait, parce que vous avez senti le poids, vous avez senti les bras qui vous prenaient par les épaules, enfin vraiment quoi, c'était
c'est comme si c'était réel, une personne réelle.
Voilà, tout à fait. Oui,
tout à fait, avec une sensation d'un corps, de la chair, du volume d'un corps.
Oui. Ah oui, ça doit être extrêmement impressionnant,
oui, ça.
J'imagine bien. Oui, j'imagine bien. Mais alors quand vous avez dit cela ou penser plutôt cela.
Par la pensée.
Ah, voilà.
Mettre un son.
Ça s'est arrêté comment?
Bon, après, moi, j'ai allumé la lumière. Bon, je suis allée boire un verre d'eau. Je suis revenue me coucher.
Mais enfin, je veux dire, cette sensation de corps qui vous enlace a disparu instantanément.
Ah oui, tout à fait, oui. Après, j'ai dialogué avec la pensée.
Oui,
j'ai
oui.
J'ai donné mon message, si je peux dire. Et après, tout est parti.
Oui.
Il n'y avait plus rien, c'était fini.
C'est comme si vous aviez en quelque sorte exorcisé ce phénomène, quoi. C'était.
Oui, certainement. Enfin, oui, mais ça s'est arrêté instantanément.
Ouais. Et plus cette sensation d'être suivi dans la maison terminée.
Ça a été fini. On y restait 3 ans de plus.
Oui.
Et je n'ai plus jamais ressenti ça.
Vous vous êtes bien occupé de la maison, au moins.
Oui, non, on était. Des gens quand même.
Bon,
sérieux.
Vous avez rempli votre part de contrat, je veux dire.
Oui. Puis bon, elle était très agréable. Il y avait des roses magnifiques. C'était un joli petit coin. Et mon mari en a parlé à ce monsieur qui était veuf, propriétaire. Et moi, je voulais surtout pas qu'il lui en parle parce que je me suis dit, il va me prendre pour une folle. Et je me souviens très bien qu'il s'est mis à pleurer, qu'il a dit, mais je le sais, je la sens moi aussi, je sais qu'elle est là, ça ne m'étonne pas ce que vous me dites. Voilà.
Ah, c'est très joli ça, ouais. Renaud, quelle est votre impression maintenant à la lumière de ce nouveau témoignage de Martine?
Donc, j'ai bien compris, c'est une toute autre maison là dont on
parle. Oui, tout à fait, oui. Bien avant cette histoire, puisque là c'est quand Martine habitait la région parisienne, ça remonte à quelques années ça, hein? Ouais.
Ben, c'est vrai que finalement l'histoire tient bien. Quand vous allez parler à une personne qui est veuve, souvent elle a des sensations de présence, ou en tout cas c'est pas indifférent, elle peut sentir ça quoi. Ouais. Vous l'avez senti vous-même, enfin à différents endroits, enfin non pas exactement, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes ici, et ce qui serait dommage, c'est que chacun s'explique séparément. D'une façon un peu triviale, qui gâcherait un peu l'affaire. Donc, je ne sais pas si je vais jouer le mauvais rôle. Mais si je vais laisser ça à Pierre Massias.
Non, Pierre, il pourra très bien jouer le mauvais rôle. Il a l'habitude en plus.
Non, parce que c'est vrai que le cas dans la nuit où vous êtes enlacé et paralysé, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de paralysie du sommeil.
Non.
C'est un trouble qui n'est pas pathologique, mais qui arrive. Très fréquemment, chez les gens, au moins une fois dans leur vie, et puis, c'est souvent à l'adolescence, mais ça se trouve à d'autres moments de la vie, et ça se passe, on est réveillé, on est conscient, lucide, mais on est paralysé, et on a une sensation d'étouffement de poids sur la poitrine, et ça existe depuis toujours dans l'humanité, c'est interprété de façon très différente. On parlait avant d'incuba et de succuba, parce qu'on pensait que c'était des démons. Et ensuite, maintenant, on pense que c'est des extraterrestres. Et donc, vous, c'était une représentation intermédiaire de la chose. Mm-hmm. Et puis, vous avez eu, au niveau de la pensée, au niveau peut-être télépathique, vous avez eu plein d'idées, plein de choses qui sont venues dans ce moment, qui sont peut-être pas, qui sont pas fréquentes forcément dans les paralysies du sommeil, même si dans les paralysies du sommeil, il y a des hallucinations, c'est-à-dire sensation de présence, sensation d'une entité dans la pièce. Ça, c'est assez fréquent. Et la sensation de présence qui vous poursuit dans toute la maison, ça c'est même chose, c'est un phénomène très subjectif, on pourrait aussi l'interpréter d'une façon très psychologisante, mais c'est vrai que votre histoire se tient avec ces trois choses qui sont peut-être un peu faibles pris une à une, mais ça se tient autrement, donc je sais pas, j'ai pas très envie d'aller au-delà quoi, mais
ouais. Pierre Massias.
Oui, mais finalement, Renaud a joué le mauvais rôle. Donc, j'ai pas... je ne vais pas avoir à en faire davantage. Mm-hmm.
Mais cela dit, l'hypothèse de la paralysie du sommeil reste celle qui est la plus... la plus proche de ce qu'a vécu sûrement Martine. Et il faudrait d'ailleurs qu'on en parle, parce que beaucoup de gens pensent avoir vécu quelque chose d'extrêmement dangereux pour eux, alors que ça ne l'est pas tant que ça, et ça n'a rien à voir avec un quelconque phénomène paranormal. C'est un phénomène physiologique et qui est bien répertorié maintenant.
Tout à fait.
Et bien connu. Bien, oui,
bien connu, qui a son histoire aussi, avec ses différentes interprétations.
Bien sûr.
Et bon, maintenant il est bien connu, on sait, il est plus extraordinaire d'avoir ce genre de paralysie du sommeil à l'endormissement ou au réveil. Alors comme disait Renaud, on peut découper ce que nous a raconté Martine en différentes parties et trouver des raisons pour avoir de tels ressentis, mais des raisons qui seront d'ordre de la vie de tous les jours. Il est pas rare que à l'occasion après la disparition d'un proche, on ait cette sensation de présence, de on va garder un lien, on veut garder un lien avec ce disparu.
Là, en l'occurrence, dans la maison parisienne, le disparu n'avait rien à voir de manière familiale avec Martine.
Avec Martine, non.
Mais c'était la dame qui vivait là.
Avec le propriétaire.
Tout à fait.
Donc, et lui, généralement, quand on va, c'est toujours le même problème. Quand on va rentrer dans un schéma explicatif, on va ramener le reste, enfin tous les éléments à ce schéma explicatif. C'est-à-dire que si on pense à un disparu qui veut se manifester, on va interpréter le témoignage du propriétaire dans ce sens-là.
Bien sûr, ça
peut être complètement indépendant.
Tout à fait.
Donc entre cet élément-là, la paralysie du sommeil, et puis aussi le fait, comme a dit Renaud, les lieux peuvent donner des impressions de suivi ou des impressions de malaise pour des raisons qui sont uniquement dues, et ça a été mis en évidence par un anglais. Donc pour des raisons tout à fait psychologiques.
Oui.
Donc ce cas-là s'explique tout à fait dans cet endroit-là.
J'ai le micro qui tombe tout seul, c'est ce qui fait rire Pierre Massias, excusez-nous. Parce qu'il y a eu un moment, vous avez remarqué, un petit moment de blanc où Pierre a... Parce que j'étais en train de parler, et puis comme les micros sont suspendus au plafond, vous savez ma chère Martine, là tout d'un coup le micro s'est mis à tomber tout seul, vous savez, c'est bien bon. Bon.
Je vais tester Louis pour un phénomène de PK. Après
un phénomène paranormal. Bon, en tout cas, je vous remercie, ma chère Martine, de nous avoir si gentiment fait preuve de confiance en nous racontant tous ces témoignages. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de soirée.
Eh ben, je vous remercie beaucoup, à vous tous.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne fin de soirée. Bonne
merci
soirée.
Beaucoup. Au revoir, Martine. Au revoir.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit. Sur Sud Radio.
Et bien voilà, c'est ainsi que se terminent les aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio. Je remercie Renaud Évrard du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International. Merci Renaud.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour une autre émission. Bonne soirée. Pierre Massias, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis rendez-vous sur le site psyland.org, direction Les Aventuriers de l'Étrange, pour soit réécouter toutes les émissions des Aventuriers de l'Étrange et se retrouver sur le forum, évidemment, le forum des Aventuriers de l'Étrange, quand on le désire, 24 heures sur 24. Il suffit de s'inscrire, il est à partir de ce soir tout à fait opérationnel. Merci encore à William qui l'a créé de toutes pièces et qui va le gérer en votre compagnie, Pierre Massias.
Tout à fait, William connaît ce genre de gestion et de la pratique par ailleurs. Donc on va pouvoir, et puis je me connecterai quand même assez souvent pour pouvoir suivre les discussions éventuellement.
Et moi également.
Apporter des éléments.
Évidemment, merci beaucoup Pierre.
Merci.
Rendez-vous la semaine prochaine, vendredi et samedi soir, avec, je peux d'ores et déjà vous le dire, un dossier tout à fait intéressant. Les dossiers secrets de Lourdes. Deux journalistes ont mené une enquête extrêmement fouillée, pointue et très très intéressante. Ils ont exhumé des documents tout à fait inédits et apportant une lumière nouvelle et intéressante sur Lourdes et les apparitions mariales. Ce sera à suivre vendredi prochain. 0826 300 300 pour nous appeler. Vous me laissez un message sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Vous pouvez m'écrire également étrange@sudradio.fr.
Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédi sur Sud Radio.